Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédiable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Sirgues, Bruno Salvé et Johan Sidaner. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, de la Formule 1 avec le Grand Prix des États-Unis, du football avec les demi-finales de la Ligue des Champions et du rugby avec les demi-finales de la Champions Cup. Nous commenterons ensuite l'actualité sportive de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Grégory Sirgues, on va commencer par vous et la Formule 1. Nouvelle victoire d'Oscar Piastri, on commence à s'habituer, on a eu du Verstappen pendant longtemps, mais là on a l'air parti sur un moment où Piastri ne veut plus lâcher la victoire.
Ah bah au départ on pensait que ce serait l'ère Norris, et au final pour l'instant celui depuis le début de la saison qui fait preuve du plus de régularité c'est quand même Piastri, puisque même Norris s'est coûté tout seul des courses par moment en voulant aller trop au bout. Et on se rend compte aussi qu'il y a une vraie domination des McLaren. Elles sont très très largement au-dessus du lot. Ils finissent le Grand Prix, il me semble, il y a plus de 35 secondes d'écart avec les suivants. Donc c'est quand même assez incroyable.
Russell est à 37 secondes, Verstappen 39 secondes, Albon 48.
Et après, c'est des écarts qui sont vraiment...
Les deux Ferrari d'Hamilton et de Leclerc sont à 57 secondes et 1 minute. Donc c'est vraiment des écarts colossaux.
Sachant qu'entre les deux McLaren, par contre, l'écart est beaucoup plus petit, donc on voit que les deux voitures marchent très bien, que les deux pilotes arrivent très bien à les prendre en main.
4 secondes 6 d'avance pour Piastri sur la fin du Grand Prix.
C'est ça. Donc c'était vraiment une course, il a dominé de la tête et des épaules. En plus, il partait pas en pole position. C'est Verstappen qui fait la pole. Donc,
Avec Norris à ses côtés.
Avec Norris à ses côtés, et ça confirme la malédiction entre guillemets du poleman à Miami, puisque depuis qu'il y a ce Grand Prix, jamais le poleman n'a fait la victoire. Et le deuxième de la qualif a toujours fini troisième. Là, c'est le seul changement.
Alors, troisième victoire consécutive pour le pilote australien, quatrième victoire sur 6 Grands Prix. C'est quand même l'homme de ce début de saison, hein.
Ah oui. Bah, on sent qu'il a très envie et son partenaire est moins dedans comparé à la fin de la saison dernière. Et Piastri se dit qu'il y a une place à prendre dans l'écurie, donc autant jouer sa carte à fond, quoi.
Alors Norris le dit lui-même, hein, il a fait des erreurs, il se sent un peu moins bien dans la voiture, il se sent un peu moins bien, peut-être un petit peu en dehors aussi, et Piastri en profite vraiment complètement, quoi.
C'est possible, hein. En plus, on est arrivé à de tels niveaux de performance que maintenant ça se joue en dixième, et il suffit d'une toute petite saute de concentration pour tout de suite se retrouver derrière, donc...
On l'a vu sur la dernière séance de qualif, hein, trois hommes en 67 millièmes.
C'est ça. Donc, c'est des écarts qui... Enfin, je sais pas si on arrive à s'imaginer, mais c'est un tour de roue, même pas.
C'est un quart de tour de roue.
C'est ça, c'est vraiment impressionnant, quoi.
Sur des vitesses à plus de 300 km/h. Donc Norris deuxième, malgré tout. Même si ça va un petit peu moins bien, il est quand même toujours sur le podium, placé.
Oui. Bah, encore une fois, comme la voiture marche très très bien et qu'il l'a en main, même s'il est moins performant que son coéquipier, elle est tellement au-dessus des autres qu'un autre résultat serait une contre-performance pour lui, en fait.
Il avait quand même remporté la course sprint de samedi.
Exact, devant Piastri pour le coup. Donc les deux encore qui restent devant. Et après, sur la course, on a Russell qui suit, puis Verstappen et la surprise Albon en cinquième. Les Williams qui ont plutôt très bien marché pendant ce week-end. Donc ça, c'était assez intéressant à suivre aussi. Et les Mercedes qui ont également très bien marché. Alors, Antonelli est toujours un peu malchanceux en course, alors qu'il fait des très belles qualifs à chaque fois. Et même en course, il se débrouille pas mal, mais il n'arrive pas à être dans le top du classement systématiquement.
Alors, on l'a dit, Mercedes domine de la tête et des épaules, mais effectivement... pas Mercedes, pardon, le lapsus révélateur McLaren. Mais Mercedes est plutôt bien, hein, bien placé, hein, avec quand même Russell et Antonelli qui sont là toujours aux avant-postes.
C'est ça, ils font pas de bruit, on les sent pas venir, mais ils sont quand même là régulièrement.
Ce qui leur permet à tous les deux d'être quatrième et sixième au championnat.
Quatrième et sixième au championnat, et qui permet à Mercedes aussi d'être deuxième au classement constructeur.
Exactement. Alors il y en a pour qui ça va un peu moins bien en revanche. C'est une marque italienne rouge, avec des voitures rouges. Donc les Ferrari, ça va quand même beaucoup moins bien. Et on a senti beaucoup de tension, pendant le week-end et à l'issue du week-end.
C'est ça, bah la voiture a l'air moins performante que ses concurrentes et surtout il commence à y avoir des grosses tensions qui pointent le bout de leur nez entre Hamilton et Leclerc, et ça rejaillit ensuite sur le reste du staff, puisque chacun ayant son propre ingénieur. D'ailleurs, il y avait une image qui était saisissante, c'est que sur la pit lane où ils sont
sur le muret,
voilà, et bah chacun avait son ingénieur d'un bout à l'autre de la partie qui est réservée à l'écurie, donc c'est pas qu'on travaille ensemble, quoi.
Ouais, on sent bien, et tant que peut-être Ferrari n'aura pas tranché sur qui est pilote numéro 1, on pourrait avoir ce type de comportement et de dissension au sein de l'écurie.
Oui, bah jusqu'au moment, en plus, alors là, jusqu'à présent, ils acceptent les consignes de rendre leur place, mais au moment où ils ne vont plus les accepter, est-ce qu'on finira pas sur des choses qu'on a vues dans d'autres écuries où les coéquipiers se tamponnaient, notamment, on se souvient de Hamilton avec Rosberg aussi, donc c'est pas quelque chose qui lui est étranger non plus, donc... C'est une affaire à suivre, mais je pense que Vasseur va passer quelques nuits sans dormir. Là.
on va parler un petit peu de Max Verstappen. C'est quand même le champion du monde en titre.
Oui.
Quatrième de ce Grand Prix, qui se bagarre avec une voiture qui a l'air de fonctionner quand même beaucoup moins bien que par le passé, mais qui est là, qui était poleman.
Bah là, on sent que c'est vraiment le pilotage qui a fait la différence, vu que sa voiture est moins performante. Et il a quand même réussi l'exploit d'être... il me semble qu'il a été papa vendredi de son premier enfant, et il arrive le lendemain à faire
la pole,
et ensuite il fait quatrième au Grand Prix, donc sacrée performance. Quoi.
Voilà, en ayant résisté longtemps aux deux McLaren qui lui mettaient la pression, il a retardé beaucoup ses freinages, il a beaucoup tapé dans ses gommes.
Puisqu'il fait beaucoup de tours en tête quand même au début, dans la première moitié du Grand Prix, avec Piastri qui poussait très très fort derrière.
Jusqu'à l'arrivée de cette petite zone de pluie là, au 14e tour, 15e tour.
C'est ça, et après, et aussi les stratégies d'arrêt qui ont fait une grosse différence, avec pas mal de pilotes qui ont tenté des undercuts et qui ont réussi à s'en sortir comme ça.
Vous rappelez à nos auditeurs ce qu'est un undercut ?
Un undercut, c'est qu'on pense que le pilote devant nous va finir par s'arrêter, et on va anticiper son arrêt à lui. Ce qui fait que nous, on s'arrête, on perd un peu de temps, mais quand on va ressortir et que lui, il va s'arrêter, ben nous, on sera toujours en course avec des pneus neufs et chauds. Donc, on passera, théoriquement, on est censé passer devant lui. Quoi.
Et il peut ressortir dans le trafic. Donc,
normalement, c'est tout bénef.
C'est une stratégie qui s'est avérée gagnante ce week-end. Un petit mot sur nos pilotes français qui font un tiers groupé, 11, 12, 13e.
Voilà, aucun qui marque de points, malheureusement. Mais on a senti que Hadjar et Ocon étaient un peu mieux ce week-end. Gasly n'avait pas l'air de pouvoir tirer toute la performance qu'il voulait de la voiture.
Donc ça avait l'air compliqué pour les deux Alpines. Hein.
Donc même la Alpine de Douane qui abandonne dès le début, puisqu'il a crevé son pneu dans un contact avec Lawson. Donc dans un week-end un peu plus compliqué pour Alpine, mais par contre plutôt encourageant pour Ocon et Hadjar.
Voilà, qu'on espère retrouver dans les points rapidement dès les prochains Grands Prix. Au classement au championnat du monde, on a donc un Oscar Piastri en tête avec 131 points devant Norris à 115 points. Troisième Verstappen, 99. Quatrième Russell, 93. Ensuite, il commence à y avoir un écart important parce que Charles Leclerc, qui est cinquième, est à 53 points. Donc,
c'est ça, ça commence déjà à faire des gros écarts après si peu de Grand Prix. Voilà.
Bon, prochain Grand Prix.
Et le prochain Grand Prix est
La question piège.
Non. Le prochain Grand Prix, déjà, c'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après. On aura trois Grands Prix qui s'enchaînent, mais je ne sais plus exactement où il est. Je ne sais pas s'il n'est pas... Non.
Bon, eh bien, on suivra, j'ai pas l'info non plus. Ah. Mais si on va enchaîner avec du football, on a vécu, Johan Sidaner, une semaine de demi-finale de Ligue des Champions assez incroyable. On a eu deux matchs très différents. Un avec peu de buts, l'autre avec beaucoup de buts, mais avec du spectacle dans les deux matchs. On va commencer par le PSG. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord de la performance du PSG à Arsenal, au-delà du score 1-0? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur ce match-là?
Ce qui a dû marquer tous les téléspectateurs, c'est l'intensité d'un tel match. Un match qu'on pourrait cataloguer de fermé, puisqu'il n'y a eu qu'un petit but en tout début de match. Mais l'intensité des débats, la qualité des équipes fait que c'était passionnant.
On a vu aussi un Donnarumma décisif. puisque la deuxième mi-temps, il y a quand même eu des occasions pour Arsenal. Et on a vu que Donnarumma avait répondu largement aux critiques auxquelles il a dû faire face il y a quelques semaines après le match aller contre Liverpool. Là, alors encore étonnamment, c'est pas lui l'homme du match. Des fois où l'UEFA est assez surprenante dans ses choix.
Mais c'est vrai que vous faites bien de le mentionner. On a souvent tendance à mettre les attaquants en lumière. Là, il y a eu qu'un seul but pour comparer avec la deuxième demi-finale. Mais effectivement, c'est aussi et surtout grâce à la qualité là aussi des derniers remparts. Des deux côtés, ils ont été bons. Mais c'est vrai que Donnarumma, ça fait déjà quelques semaines qu'il monte en puissance. Il a fait taire les critiques. Et ça en devient même maintenant l'un des gros points forts du PSG qui leur permet d'être en position de vraiment forte par rapport à Arsenal sur ce match retour.
Donc effectivement, le PSG semble en ballottage favorable avec un match retour au Parc des Princes. Comment aborder, vous quatre techniciens, comment aborder ce match retour avec un but d'avance ?
Ben oui, c'est ça. C'est à la fois un bon résultat et on sait aussi que c'est jamais facile à protéger. J'ai lu qu'il y avait 75% de chances de passer par rapport aux dernières statistiques et aux dernières éditions. Quand tu remportes un match comme ça à l'extérieur et que tu reçois. Mais on sait aussi que les Anglais, notamment Arsenal, ne sera surtout pas une équipe facile à vaincre et la qualification est loin d'être.
Ils l'ont prouvé, hein, ils sont allés gagner à Madrid le tour précédent.
Ils sont allés gagner à Madrid, effectivement, dans les bonnes circonstances. Là, ils ont le retour de Thomas Partey, l'un des milieux de terrain qui donne un certain équilibre, une densité au milieu du terrain qu'il n'avait pas sur cette demi-finale aller.
C'est ça, la bataille du milieu a été plutôt gagnée par le PSG.
Voilà, c'est ça. On peut dire ça. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, on a vu qu'ils avaient souffert. Et sur cette deuxième manche, mercredi matin, on a hâte de voir ce que ça va donner.
Alors, ça sera jeudi matin pour le coup, puisque mercredi matin, ça sera l'autre demi-finale. Mais effectivement, on attend ça avec beaucoup d'impatience. On a vu que le PSG s'était incliné ce week-end. Est-ce que le turnover, à votre avis, imposé par Luis Enrique, vous semble une bonne chose ?
On a bien vu que alors trois autres équipes l'avaient fait. Le Barça avait fait tourner 80% de son effectif. Arsenal était la seule. Arsenal a tourné aussi pas mal, mais s'est incliné également. Il n'y a que l'Inter qui a essayé de maintenir une certaine.
Parce qu'ils ne sont pas champions.
Ils sont à la lutte avec Naples. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que le PSG a fait tourner, s'est incliné à Strasbourg, mais on ne peut pas dire que ce soit inquiétant.
Bon. On va donc suivre ça dès jeudi matin en espérant de nouveau avoir un club français en finale fin mai. L'autre demi-finale, alors là on a eu le droit à un match fou et spectaculaire, le 3 partout entre le Barça et l'Inter. On s'est demandé si ça allait s'arrêter à un moment tellement ça pleuvait des buts.
On aurait voulu que ça ne s'arrête jamais. Même.
L'Inter menait quand même 2-0 et c'est quand même un gamin de 17 ans qui a remis le Barça dans le bon sens, hein, Lamine Yamal, pour ne pas le citer, qui a vraiment pris ses responsabilités, qui a remis le Barça dans le bon sens en réduisant le score de 1 et puis après en mettant le feu plusieurs fois à la défense de l'Inter.
C'est le retour du Barça qu'on aime tous. Effectivement, une opposition de style. Autant PSG-Arsenal, c'était deux équipes qui se ressemblent, qui sont assez similaires dans leur approche. Là, on avait le football italien face au Barça. On savait que ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. On s'en sort avec un beau match nul, effectivement, avec des buts spectaculaires. Les 6 buts sont exceptionnels dans leur chacun dans sa spécificité. L'Inter avec des coups de pied arrêtés, le Barça avec quelques virtuoses qui font chavirer le stade et les matchs. En tout cas, effectivement, ce retour à San Siro sera incroyable et celui-ci sera donc mercredi matin.
Celui-là. On va commencer par celui-là. Le Barça vous paraît en position d'aller chercher un résultat à San Siro, effectivement, puisque c'est quand même difficile d'aller bouger l'Inter sur son terrain, on le sait. Même s'il n'y a plus cet avantage du but marqué à l'extérieur désormais, donc il n'y a pas de raison pour l'Inter de défendre sa position. Mais quelle va être la stratégie adoptée par l'Inter à votre avis ? Parce qu'ils ont surpris tout le monde en menant 2-0. Alors après, ils ouvrent le score au bout de 30 secondes, ça facilite un peu les choses.
Pas simple de pronostiquer, je ne suis pas un parieur, mais je serais curieux de voir les statistiques, ou plutôt les cotes. Là, c'est vrai que c'est assez ouvert. On peut toujours compter sur les Italiens pour fermer plutôt une rencontre un peu plus fermée, notamment à domicile. Ils ont une grande expérience de ces matchs-là. Ils ont une moyenne d'âge de plus de 29 ans comparé aux joueurs barcelonais, qui est l'équipe la plus jeune de cette Ligue des Champions, avec 24 ans de moyenne d'âge. Voilà, c'est des petits aspects qu'il ne faut pas négliger.
Après, ce qui va être compliqué, ça va peut-être être dans la fraîcheur en fin de match, vu que l'Inter, ils n'ont pas fait tourner, contrairement au Barça. Donc peut-être que c'est là que ça va jouer.
On a vu que Lewandowski avait repris l'entraînement en ce début de semaine. On peut toujours espérer un retour de Lewandowski sur des matchs cruciaux comme celui-ci.
Ouais, peut-être pas dès le début, peut-être pas dès le coup d'envoi, mais forcément en cours de match. Vous parlez de l'attaque du Barça, on va parler de la défense du Barça. Est-ce que c'est pas le point faible du Barça, cette défense ?
Oui, on peut voir ça comme ça.
Sachant qu'a priori, Jules Koundé, qui est un peu celui qui tient le couloir droit, ne sera pas là.
Non, c'est ça, il manquera Jules Koundé, effectivement, comme on disait. On s'attendait tous à avoir un Barça, non pas passé aisément, parce qu'il n'y a pas de petites équipes à ce niveau-là, mais l'Inter peut faire déjouer les pronostics et se retrouver en finale à l'issue de ce match.
Bon, alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous ne voulez pas parier, mais on va vous demander un petit pronostic. On va vous tester sur vos talents de pronostiqueur. Et la finale va opposer.
Mais on va être forcément un peu partisan. On espère un pari, et je vois bien l'Inter s'imposer contre le Barça.
Ok, eh ben on va suivre ça cette semaine et on verra si vos talents de pronostiqueur vous permettent d'envisager de faire des paris. On va changer de Coupe d'Europe, on va changer de ballon, on va rester sur la Coupe d'Europe, on va passer au rugby avec vous, Bruno Salvé. On attendait un Stade Toulousain Leinster, on aura un Northampton UBB.
Absolument.
On va commencer donc par la belle victoire de l'UBB face au Stade Toulousain, surprenante malgré tout. 35-18.
Ouais, surprenante, mais bon, elle reflète aussi la saison de top 14, hein, puisque les deux équipes se sont affrontées déjà deux fois en top 14, et l'UBB s'est imposé à Toulouse et s'est imposé aussi à la maison. Donc, c'est la troisième victoire de l'UBB sur Toulouse cette année. Donc, c'est un signal fort envoyé au Stade Toulousain dans la poursuite du top 14 et puis surtout première finale pour ce club. Donc c'est vraiment une très belle performance qu'ont réalisé les Bordelais, les Béglés Bordelais ce matin.
Bon, on a vu un Biel-Biarré, omniprésent.
Oui,
stratosphérique, j'ai envie de dire même.
Deux essais, une fois de plus. Donc oui, après, il se sert de sa vitesse. Et surtout, il y a des leaders de jeu tels que Maxime Lucu, qu'on a souvent considéré comme une doublure d'Antoine Dupont en équipe de France. Mais on se rend compte que sur ce type de match, comme on s'est rendu compte de son talent lors de sa rentrée et de la blessure d'Antoine Dupont lors du tournoi contre les Irlandais. Ouais. Où il avait plus que remplacé Antoine, il avait même sorti un gros match. Donc c'est vraiment le patron de cette équipe. Et a souligné aussi donc, la très belle prestation de Mathieu Jalibert, qui est un attaqueur hors pair, qui a franchi plusieurs fois la ligne d'attaque, qui fait des passes décisives et qui a largement dominé son vis-à-vis, puisque son vis-à-vis hier c'était Ntamack, et il se dispute quand même le poste en équipe de France. Donc voilà, une belle prestation de l'ensemble de l'équipe aussi, hein, parce que on pensait que les Toulousains allaient dominer le UBB assez facilement devant, et puis on s'est rendu compte que non, la stratégie qui a été mise en place était la bonne, une bonne défense, bien, bien hermétique, et puis surtout, ils ont gagné la guerre des rucks, c'est-à-dire que sur les mêlées spontanées, ils ont réussi à récupérer de précieux ballons, et surtout, premier essai pour l'UBB à bout de la cinquième minute de match, et début de la deuxième mi-temps, alors que le score est de 18-11, d'entrée, Louis Biel-Barré remet un essai, donc les Toulousains ont couru tout le long du match après le score.
Alors justement, comment expliquer un peu cette, on va pas parler de contre-performance, mais cette prestation toulousaine, parce que malgré tout ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe, mais forcément avec Toulouse, on s'attend toujours au minimum à une finale, donc on n'est pas habitué à les voir chuter avant, surtout comme ça, il y a souvent, là il y a quand même 17 points d'écart, c'est assez inhabituel.
Oui, disons qu'on va dire que le dernier essai, après il est dans les arrêts de jeu, il est anecdotique. C'est vrai que mentalement, quand une équipe subit, surtout dans des sports comme le rugby, sport de combat, on a du mal. Et puis surtout, je pense que la préparation a été un peu faussée avec la blessure de Movaca la semaine juste avant, la blessure de Ramos. Il ne faut pas oublier qu'Antoine Dupont n'est pas là non plus. Donc on enlève un Dupont, un Ramos, un Movaca, un effectif, trois titulaires indiscutables de l'équipe de France. Qui ne joue pas cette demi-finale, ça perturbe aussi le rendement de l'équipe. Mais bon, après, il y a un banc, il y a des joueurs qui ont tenu leur place. Mais c'est vrai que l'UBB avait vraiment bien préparé cette demi-finale. Yannick Bru, donc l'entraîneur de l'UBB, ancien Toulousain, connaît très bien le système de jeu de Toulouse. Et je pense que ça jouait en plus à Bordeaux, donc ça fait beaucoup de facteurs qui font que
la balance a penché du côté bordelais.
Du côté bordelais, oui, absolument.
Ouais. Bon, on va suivre en tout cas la réaction toulousaine en championnat et en top 14 d'ici la fin de saison, parce que je pense qu'ils vont avoir à cœur de ne pas faire une saison blanche et d'aller chercher le titre.
Prochaine journée de championnat, il se déplace à Toulon. Donc Toulon qui est troisième et qui veut
un des deux premiers accessibles.
Qui veut jouer la seconde place, donc ça va être compliqué. Oui.
Dans l'autre demi-finale, on attendait le Leinster là aussi et Northampton a créé la surprise en allant s'imposer au Leinster 37-34.
Oui, alors la véritable surprise aussi. La jeune équipe de Northampton, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, hein, notamment on a pu découvrir, on l'avait vu un peu lors du tour de destination, le jeune troisième ligne Pollock, Freeman aussi. Donc ce sont qui s'est permis de marquer trois essais. Donc c'est cinq essais quand même. Ils ont eu la bagatelle d'aller marquer cinq essais sur le terrain du Leinster. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans l'histoire du rugby. Donc ça a été vraiment la surprise. Et une belle surprise parce que ça a été vraiment un match très très agréable avec beaucoup de mouvements. Et on se rend compte un peu, parce que ce qu'on avait dit, hein, quand on avait fait un peu l'analyse du tournoi des destinations, c'est que l'équipe du Leinster, qui est à 90% l'équipe d'Irlande, est une équipe qui commence à être vieillissante, avec des cadres qui ont dépassé la trentaine et qui commencent à être usés, fatigués par tous ces combats et par toutes ces saisons. Et malheureusement, pour le Leinster, Jonathan Sexton, donc le numéro 10, qui était vraiment le maître à jouer de cette équipe, n'a pas de remplaçant digne de ce niveau-là. Donc ça a vraiment pénalisé aussi cette équipe du Leinster.
On n'est pas loin de la fin d'un cycle, peut-être, sur l'équipe du Leinster.
Je pense, oui, sur l'équipe du Leinster et aussi l'équipe d'Irlande. Hein. Donc, le renouvellement va être compliqué à se faire parce qu'il n'y a pas énormément de licenciés aussi dans ces petites nations. Donc, on fait confiance à la formation irlandaise parce qu'ils ont quand même d'excellents joueurs. Mais ça risque d'être compliqué pour eux, oui.
Si on se projette un petit peu sur cette finale du 24 mai à Cardiff, un UBB Northampton, forcément on a envie que l'UBB gagne.
Oui, oui, oui. Ben, je pense que ça va être un match spectaculaire, parce que si le Northampton vient avec les mêmes intentions affichées lors de cette demi-finale au Leinster, on risque d'avoir un rugby de mouvement, à la fois de combat, mais aussi un rugby de mouvement, parce que c'est ce qu'ils nous ont proposé, hein, avec énormément de jeu axial, mais aussi d'essayer de jouer dans les espaces, d'éloigner les ballons des zones d'affrontement, et avec des joueurs très rapides et très très puissants. Et c'est ce que le jeu que propose aussi l'UBB et qu'a proposé l'UBB lors de sa demi-finale contre Toulouse. Donc je pense que ça va être une belle finale, et oui, on espère de tout cœur que les Béglos bordelais vont s'imposer. Ce serait vraiment une belle saison pour
eux,
cette équipe.
En attendant mieux, peut-être, et pourquoi pas un doublé.
Pourquoi pas le doublé en top 14,
top 14, hein.
Oui, puisque ils sont bien partis, hein, ils sont deuxièmes du championnat, bon, même s'ils ont 10 points derrière Toulouse. On avait pensé la semaine dernière, ils avaient perdu à la maison contre La Rochelle.
C'est ça.
Donc La Rochelle était venue s'imposer chez eux.
Est-ce que finalement, ils n'étaient pas déjà un peu en train de préparer cette demi-finale?
Oui, probablement. Sans doute qu'ils avaient peut-être la tête ailleurs et ils étaient déjà, en tous les cas, ils ont bien préparé leur coup pour cette demi-finale. Et vraiment, c'était une belle finale avec des conditions de jeu aussi qui n'étaient pas les mêmes que quand La Rochelle est venue jouer chez eux, où il pleuvait énormément, terrain boueux. Là, c'était vraiment un jeu, une météo qui a permis de voir un jeu rapide, aéré, avec beaucoup de vitesse.
On va dire un petit mot de Challenge Cup, puisque le Loup s'est imposé face au Racing dans la deuxième demi-finale 29-15.
Donc le Loup sera en finale. Oui, un match au bout de l'ennui un peu, parce qu'il y a eu énormément de fautes. Ça a été un match pas très abouti, mais bon, le Loup se qualifie. Et donc
jouera contre Bath, qui a battu Édimbourg 39-24.
Ouais, alors l'équipe écossaise qui a battu Bath de Finn Russell, puisque Finn Russell, le demi d'ouverture écossais, joue à Bath, donc, et qui se retrouvera en finale. Donc c'est vrai que ça fait deux finales franco-anglaises sur ces deux Coupes d'Europe. Donc ça, c'est à l'image un peu aussi du tournoi destination, où ces deux nations-là ont dominé cette année le tournoi.
Bon, on espère que le Loup donnera la mesure, j'ai envie de dire, la veille, puisque cette finale de Champions Cup aura lieu la veille sur le même terrain.
Donc, sur le même terrain de Cardiff,
ça peut quand même avoir des incidences, c'est assez surprenant ce choix, non ? Alors le terrain peut quand même être vite dégradé pour la finale de la Champions Cup.
Ouais, c'est pas la première fois que ça se fait. Hein. Ça se fait régulièrement où les deux finales du Challenge et de la Champions Cup ont lieu sur le même terrain à un jour d'intervalle. Donc je pense qu'à Cardiff, ils ont de très bons jardiniers.
Ouais,
et
normalement, oui.
Qui vont pouvoir bien préparer cette pelouse sur ces deux rencontres.
Eh bien, on va suivre cette fin de saison de Coupe d'Europe de rugby aussi avec beaucoup d'intérêt, en espérant que les clubs français aillent au bout.
Ce serait l'idéal que les deux clubs aillent au bout. Et ce serait une belle récompense aussi pour le Loup, hein, qui depuis plusieurs années joue un peu les premiers rôles en top 14 et n'arrive pas à aller sur les faces ou les demi-finales. Et puis ce serait une bonne récompense pour Karim Ghezal, qui est ancien entraîneur de l'équipe de France, et Vincé du Stade français en début de saison.
Exactement, qui a bien rebondi pour le coup sur cette saison 2025.
C'est ça.
Messieurs, il est temps de passer au bref de la semaine. On va revenir au football. Et à la Ligue 1, Monaco a fait la bonne opération ce week-end en s'imposant et en reprenant la troisième place avec un tout petit point de retard sur Marseille qui n'a pas pu faire mieux que match nul à Lille ce matin, Johan Sidaner.
Oui, il reste deux matchs.
C'est ça, il reste deux journées.
Et c'est très serré pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Et on voit que là, le grand perdant du week-end, c'est l'Olympique Lyonnais.
Exactement, donc perdu à Lens. C'est presque la troisième défaite en 10 jours après la défaite à Manchester United et la défaite en championnat
dans le derby qui est pire que
dans le derby contre Saint-Etienne. Donc effectivement, mauvaise opération pour Lyon qui est à 54 points aujourd'hui et qui est donc 2, 3, 4, 5, 7e. Marseille est donc 2e avec 59 points, Monaco 3e avec 58 points et on a un tir groupé de Nice, Lille et Strasbourg avec 57 points. Donc les deux dernières journées vont être extrêmement importantes pour ces places en Ligue des Champions. On rappelle que les trois premières places sont qualificatives directement et que la quatrième place oblige à passer par un barrage pour accéder à la Ligue des Champions.
C'est ça, et en bas de classement, la bataille fait rage également avec la mauvaise opération du FC Nantes qui s'est incliné contre Angers hier et ça fait pas les affaires des Canaries.
De notre ami Antoine Camboire.
Il y a 4 équipes en 2 points pour la place de barragiste pour éviter de descendre en Ligue 2.
C'est
donc
exactement
c'est très
ça. Donc aujourd'hui, Saint-Etienne semble condamné, sans vouloir les condamner avant l'heure, mais mathématiquement c'est encore jouable, mais ça va être très compliqué. Et donc la place de barragiste se jouera entre Le Havre, qui a fait la bonne opération ce week-end, Nantes, Angers et Reims. Donc il reste 2 journées. Et il y a, je crois, un Le Havre-Marseille sur la prochaine journée, me semble-t-il.
Le Havre-Marseille.
Donc ça peut être ça peut se jouer et ça va probablement se jouer lors de la dernière journée. Encore un petit mot de football pour dire que le Bayern est champion d'Allemagne pour la 34e fois, je crois. Premier titre, en tous les cas, pour Harry Kane, le maudit.
Quelle carrière! Harry Kane qui est un joueur quand même qui chaque année est très très efficace, qui finit dans les 3 meilleurs buteurs quel que soit le championnat et l'équipe où il a joué, mais qui n'a pour l'instant jamais eu un seul trophée. Il y avait même la semaine dernière une petite blague puisqu'il peut pas jouer le match où théoriquement le Bayern peut être champion, et ce match là ils font match nul et ils sont pas champions, donc
le Bayern Leverkusen, voilà, le Bayern Leverkusen leur a facilité la tâche finalement, puisqu'ils n'ont pas pu faire mieux que match nul ce matin, cette nuit, et du coup, le Bayern se retrouve avec suffisamment de points pour être titré champion. Enfin, un trophée pour Harry Kane.
C'est ça. Et en Ligue 2 aussi, on n'en parle pas, mais la montée du Paris Football Club qui, quand même, Je crois qu'on aura un derby parisien l'an prochain avec deux stades qui sont à 45 mètres l'un de l'autre.
À peine.
Ça va être rigolo.
Il y a une rue qui sépare les deux stades, effectivement.
Jean-Bouin, ils jouent à Jean-Bouin, c'est ça?
Oui, exactement. Ils joueront à Jean-Bouin. Et pour ceux qui connaissent le quartier, ben, il y a une rue, il y a simplement une rue qui sépare Jean-Bouin du Parc des Princes. Un petit mot de tennis maintenant, messieurs, pour parler de la fin du Masters 1000 de Madrid. Chez les femmes, c'est Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, qui s'est imposée, on a presque envie de dire sans surprise, tellement la concurrence manque un petit peu dans ce circuit féminin. Elle s'est imposée en finale face à l'américaine Coco Gauff en 2-7, et Coco Gauff avait collé un sévère 6-1-6-1 à Iga Świątek, deuxième mondiale, en demi-finale. On a quand même un manque cruel de concurrence, on va dire, aujourd'hui dans le tennis féminin. Iga Świątek n'a plus gagné un titre depuis Roland-Garros l'année dernière, 2024. Elle peine même à se hisser en finale. Donc il y a vraiment aujourd'hui un boulevard pour Sabalenka. Il n'y a jamais eu autant d'écart en points entre la numéro 1 mondiale et la numéro 2 mondiale. Je crois qu'il y a 5000 points d'écart aujourd'hui. Donc c'est assez colossal. Un petit mot là-dessus, messieurs, sur ce...
Colossal à l'image du gabarit de Sabalenka.
De Sabalenka, hein, et de ses frappes.
À la place de la balle. Hein, parce que, vu les épaules de camionneur qu'elle a...
Alors, c'est pas toujours un gage de qualité ou oui. de champion. Hein. On a eu des championnes pas si loin dans le passé. Je pense à Justine Hénin, la Belge, qui était plutôt un petit gabarit. Petit gabarit, ouais. Mais en tout cas, effectivement, elle envoie du lourd.
Là, on voit du fort, et puis en plus dans le terrain. Quoi. Donc,
là, aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment au-dessus du lot, et on sent que le capital confiance qu'elle a acquis fait que ça peut se tendre un peu pendant le match, et elle va retrouver le moyen de s'en sortir, comme on l'a vu pendant tant d'années chez d'autres champions dans le tennis masculin.
Et elle arrive à s'en sortir sur toutes les surfaces, pratiquement.
C'est ça. Alors là, c'est plutôt...
Là, on est sur la terre battue.
Voilà, mais... Surprenant, c'est pas sa surface de prédilection, c'est plutôt la surface de Świątek. Donc, on est sur les premiers tournois encore, il reste un peu de tournois avec... encore Rome notamment qui démarre en fin de semaine, mais effectivement on espère en tout cas que Świątek va un peu reprendre du poil de la bête pour qu'on ait un vrai duel, on puisse au moins avoir un vrai duel dans ce tennis féminin. On va passer chez les messieurs. Là c'était un peu l'hécatombe cette semaine à Madrid, hein. C'est Casper Ruud qui s'est imposé face à Jack Draper en finale. C'est deux hommes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, mais Alcaraz a disparu, avait déclaré forfait, et on a perdu. Sinner n'était toujours pas revenu, donc voilà, on a perdu tous les autres en route, et ces deux-là se sont hissés en finale, et Ruud a enfin gagné un grand titre, puisqu'il avait quand même été numéro 2 mondial, sans jamais gagner mieux qu'un 250. Il n'avait jamais gagné un 500, il n'avait jamais gagné un Masters 1000. Donc là, il vient un peu de rectifier ça, on va dire. Et il se pose, pas forcément en favori pour Langaros, mais en tout cas en outsider.
Outsider, oui, bien sûr. Sinner sera de retour d'ici là.
Alors, c'est exactement l'actu d'après. Sinner sera de retour cette semaine, puisque en fin de semaine, il aura purgé sa suspension. Et donc, il fait son retour sur le Masters 1000 de Rome, qui aura lieu du 7 au 18 mai, et qui sera le dernier tournoi de préparation avant Roland-Garros. Donc, on va forcément guetter ça de manière très attentive, puisque premier tournoi depuis plus de 3 mois. On va voir si Sinner est de nouveau très vite opérationnel, sachant que c'est pas sa surface de prédilection, la terre battue. Mais on va voir si cette suspension, et quelles ont été les conséquences pour lui de cette suspension, sachant que voilà, même 3 mois d'arrêt, il est quand même toujours numéro 1 mondial, tellement il avait dominé le tennis depuis un an et pris de l'avance là aussi au niveau du classement.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces 3 mois d'arrêt lui ont permis de se régénérer, parce que c'est vrai qu'il joue énormément, hein, ces joueurs professionnels, ou voilà, justement le manque de compétition, ça va peut-être le desservir.
Alors, j'ai presque envie de faire une réponse de Normand, les deux, mon capitaine. Forcément, il va arriver avec une certaine fraîcheur physique, ça c'est indéniable. Et effectivement, le manque de match va aussi à un moment se faire sentir. Alors pas sur les premiers tours, sauf à tomber sur un premier tour un peu piégeux, mais ça peut manquer un petit peu d'expérience ou de reprendre quelques routines sur des joueurs un peu plus huppés.
Costaud, ouais.
Prendre un Casper Ruud par exemple en quart tout de suite, ça pourrait être un match piège. Donc voilà, je pense qu'il va s'évertuer à durer le plus longtemps possible dans chacun des tournois là, qu'il va faire jusqu'à Roland-Garros. Peut-être même, si jamais il voit qu'il est sorti rapidement sur le Masters 1000 de Rome, renquillé tout de suite avec un autre tournoi derrière. Il doit y avoir un 250 du côté de Hambourg en général pour avoir l'occasion de matcher au maximum. Mais je pense qu'il a dû multiplier depuis son retour à l'entraînement, les sets d'entraînement aussi. Hein.
Oui,
il a dû s'entraîner avec Sonego la semaine dernière, donc je pense que voilà, il a quand même dû préparer son retour, sachant que ça joue à Rome en plus chez lui, donc il va forcément avoir envie de bien figurer. Mais si on arrive à la fin de cette émission, on va pouvoir passer à vos coups de cœur. Johan Sidaner, on va commencer par vous.
Coup de cœur, vous avez parlé de résultats et de titres tout à l'heure, du Paris FC, d'Harry Kane, on aurait pu dire Liverpool également.
C'était la semaine dernière. Mais...
c'était il y a quelques jours maintenant, mais ce qui, je pense, a marqué beaucoup de monde, a marqué les esprits plus que les résultats, c'est la performance, on en a parlé rapidement tout à l'heure, du jeune prodige espagnol, Lamine Yamal. C'est vrai que là, quand on parle de coup de cœur, je pense qu'il peut marquer toute une génération de footballeurs. Tout le monde dira que c'est trop tôt pour le dire, mais on a vu son entraîneur actuel, Hansi Flick, parler d'un génie sous ses yeux. Il le voit au quotidien et il a suffisamment d'expérience pour peser ses mots. Donc bon, l'énorme coup de cœur pour moi, mais je pense pas que pour moi, pour les amoureux, pour les passionnés du football, c'est la performance et le génie du petit Yamal.
Bah, les seuls qui doivent pas souhaiter d'avoir une démo cette semaine, c'est les supporters de l'Inter, je pense.
C'est ça. Voilà. Je sais pas si ça suffira.
Grégory Sirk, votre coup de cœur ?
Avant le coup de cœur, mes excuses pour nos amis italiens, puisque le prochain Grand Prix aura lieu chez eux. Donc ça permettra aux tifosi d'oublier le début de saison difficile de Ferrari. Et pour le coup de cœur, un gros coup de cœur à l'association du sport automobile de Nouvelle-Calédonie qui a organisé ce week-end son premier rallye, et particulièrement à son bureau, au commissaire, à tous les bénévoles qui étaient présents, puisque c'était une très belle manifestation. Et j'en profite également pour également un salut spécial à Max Fouché qui a fait un travail énorme sur son terrain pour permettre à tous les passionnés du sport automobile calédonien de se retrouver. Donc un gros coup de cœur pour cette très belle organisation.
Eh bien, c'est important de le signaler, effectivement, les bénévoles et les gens qui organisent encore des épreuves en Nouvelle-Calédonie méritent d'être mis à l'honneur. Bruno Salvé, votre coup de cœur de cette semaine ?
Un coup de cœur pour Mathieu Jalibert, donc par rapport à homme du match de cette demi-finale contre Toulouse, et puis sans oublier qu'il a commencé le rugby au stade calédonien, donc à Nouméa, et voilà, donc... un petit jeune du pays qui évolue au plus haut niveau, ça fait toujours plaisir.
Bon, et bien voilà, et on espère qu'il va porter haut les couleurs de la Calédonie, là aussi jusqu'au trophée au fin mai. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir été présents avec moi ce soir, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs ou les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.